Europe 1. Vous écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h-20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Qu'est-il arrivé au chanteur Kenji Girac? Il dit s'être lui-même blessé par balle ce matin à Biscarrosse dans les Landes, mais sa version comporte des incohérences. Il est hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger. Les détails avec Stéphane Place dans un instant, et on va y revenir après le journal avec le rédacteur en chef culture de Paris Match, Benjamin Locoge. Il y a désormais non pas deux, mais trois jeunes suspects dans l'agression mortelle contre Philippe à Grande. Un garçon de 15 ans a été arrêté, c'est le cousin des deux autres. Face à la multiplication des agressions entre jeunes, Gabriel Attal propose des internats éducatifs comme celui qu'il a visité à Nice. Est-ce une bonne idée ou pas? On va en parler avec l'enseignante Lisa Kamenirsig. Donnez-nous votre avis au 01 80 20 39 21. Dans ce journal, Jean-Luc Mélenchon va prendre la parole tout à l'heure à Sciences Po Paris. La démission du chef du renseignement militaire israélien, analyse à suivre de Frédéric Ancel. Et puis, on fabrique encore des Citroën dans une usine russe. On va vous expliquer comment c'est possible. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors, pas de hausse des températures avant ce week-end. Bon, demain, temps frais, de la neige sur les massifs montagneux. Un ciel variable avec parfois de beaux moments ensoleillés pour débuter la journée, mais quelques pluies aussi au programme et on fera le point à la fin du journal.
À tout à l'heure. C'est donc une affaire bien étrange, la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Il est ce soir hospitalisé près de Bordeaux, ses jours ne sont pas en danger. Stéphane Place, vous êtes devant cet hôpital à Pessac. Que sait-on sur ce qui s'est passé tôt ce matin dans une aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse?
Alors soyons clairs, il y a peu d'informations sur les investigations en cours depuis ce matin, depuis que Kenji Girac a été découvert grièvement blessé par balle vers 5h sur cette aire d'accueil pour les gens du voyage, non loin de l'aérodrome de Biscarrosse. Pris en charge par les secours, le chanteur de 27 ans a été transporté ici à l'hôpital Olévêque à Pessac où je me trouve, pendant que sur le terrain, dans le périmètre bouclé par les gendarmes, les enquêteurs recueillent indices et témoignages pour reconstituer le déroulement des faits. Une vingtaine de militaires mobilisés, de la gendarmerie de Parentis-en-Born, de la cellule d'identification criminelle et de la section de recherche de Pau. Ils ont retrouvé une arme de poing tout à l'heure, un Colt caché dans un buisson, mais il n'y avait pas de chargeur ni dans ce pistolet ni à proximité. Et ce soir demeurent de nombreuses questions sur les circonstances de ce tir qui a atteint au niveau du thorax l'artiste connu pour avoir remporté The Voice. D'abord, il y a des prélèvements, des analyses de police techniques et scientifiques qui vont être effectuées pour s'assurer que l'arme découverte a bien un lien avec les faits. Et puis, il s'agit d'établir le scénario précis. Est-ce un accident de manipulation qui est à l'origine de ce tir? Est-ce la victime qui avait le pistolet dans les mains? Ou un tiers, en clair une autre personne qui serait intervenue? Autant d'interrogations auxquelles doit répondre l'enquête diligentée par le parquet de Mont-de-Marsan.
Stéphane Place, devant l'hôpital de Pessac pour Europe 1. On va revenir avec vous sur cette mystérieuse affaire et aussi avec le rédacteur en chef culture de Paris Match, Benjamin Locoge. Ce sera juste après ce journal. Un rebondissement ce soir dans l'enquête sur l'agression mortelle du jeune Philippe à Grande-Synthe. Un troisième suspect a été arrêté. Il est en garde à vue pour assassinat. C'est le cousin des deux autres meurtriers présumés. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de Grande-Synthe.
Oui, très exactement, le cousin de l'un des deux agresseurs de la semaine dernière. Il s'agit en fait d'un garçon de 15 ans qui lui-même a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est-à-dire quelques heures seulement après la marche blanche qui avait été organisée ici à Grande-Synthe. Agression dans ce qui ressemblait à une expédition punitive, une sorte de vengeance montée contre un proche donc de l'un des assassins présumés de Philippe Kopmann. Et bien ce soir, ce garçon passe du statut de victime à celui de suspect parce que selon la procureure de la République de Dunkerque, c'est bien en tant que mise en cause dans l'agression sauvage de Philippe qu'il a été placé en garde à vue à sa sortie d'hôpital. Alors, il faut dire les choses, on n'en sait pas beaucoup plus ce soir sur son degré d'implication dans le passage à tabac qui a coûté la vie mardi dernier au jeune éducateur de Grande-Synthe. Mais ce qu'il y a de troublant dans ce rebondissement, c'est que cela peut laisser penser qu'ici, à Grande-Synthe, certains étaient au courant ou en tout cas convaincus de la responsabilité de cet adolescent dans la mort de Philippe. Le fait est qu'à l'heure où l'on parle, ceux qui ont ont voulu se faire justice eux-mêmes d'une certaine façon, n'ont toujours pas été interpellés.
Lionel Gougelot, en direct de Grande-Synthe, dans le Nord. Son prénom est aussi l'un des symboles de la violence des mineurs. Samara, 13 ans, violemment agressée près de son collège de Montpellier avant les vacances de Pâques. Aujourd'hui, ce devait être la reprise des cours dans cet établissement, mais les enseignants se sont mis en grève. Ils voulaient dénoncer l'impact de cette affaire sur leur travail et sur l'image du collège. À propos de la violence des mineurs, le Premier ministre propose sa solution, le placement en internat. Gabriel Attal était à Nice avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, pour inaugurer un internat éducatif destiné aux élèves décrocheurs, un établissement où, pendant deux semaines de vacances scolaires, une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans seront encadrés par des éducateurs spécialisés. Alexandre Chauveau, vous êtes à Nice. L'objectif, c'est d'empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance.
Oui, avec un encadrement strict opéré par des réservistes de la gendarmerie, réveil à 7h, levée du drapeau et des activités conçues pour valoriser la vie en société. L'internat apparaît pour beaucoup comme un moyen de ne pas quitter le droit chemin.
C'est soit je vais au bled les deux mois de vacances, ou sinon je vais les deux semaines ici. Et du coup, je préférais choisir ici.
Tous sont inscrits ici sur la base du volontariat des parents qui ont parfois du mal à trouver les bons remèdes.
J'espère à la fin de ce séjour qu'ils puissent en sortir avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de respect.
Face aux adolescents, Gabriel Attal joue les encadrants.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone.
Sur le téléphone.
Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Fier de voir dans cet internat une illustration du choc d'autorité qu'il appelle de ses voeux.
On va inciter davantage au placement de ces jeunes en internat pour leur donner un cadre, leur rappeler quelles sont les règles et les couper de mauvaises fréquentations.
Et en cas de réussite, l'expérimentation pourrait donc être généralisée à l'ensemble du pays.
Alexandre Chauveau à Nice pour Europe 1. Alors, coup de com' du Premier ministre, ou vraie solution pour couper les jeunes de leur milieu nocif? On va en parler à 19h30 avec la professeure des écoles Lisa Kamen-Nirsig. Elle est l'auteur de La Grande Garderie chez Albin Michel. Interdit à Lille, Bordeaux et Rennes, voilà Jean-Luc Mélenchon. À Paris, le leader des Insoumis poursuit sa campagne européenne, qui ne tourne d'ailleurs qu'autour de la situation à Gaza. Ce soir, il doit prendre la parole dans les locaux de Sciences Po, Alexis de La Fontaine. Comment se fait-il que sa présence ait été interdite à plusieurs reprises et que là, à Paris, elle soit autorisée ?
Eh bien, les présidents de Lille ou Bordeaux jugeaient la venue de Jean-Luc Mélenchon trop dangereuse dans leurs universités, trop de risques de troubles à l'ordre public, et les préfectures avaient demandé l'interdiction de ces réunions, alors que Sciences Po Paris estime qu'il n'y a aucun risque de troubles ce soir avec cette conférence du leader insoumis. Il faut dire que l'endroit est très très bien gardé. J'ai aperçu plusieurs fourgons de police dans la rue et de nombreux vigiles pour filtrer les étudiants rue Saint-Guillaume à Paris. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a utilisé une petite ruse pour pouvoir tenir sa réunion et pour contourner les règles en période de campagne électorale. À Lille, l'insoumis venait pour un meeting sur la Palestine, alors que ce soir, il est officiellement présent pour une conférence littéraire sur son livre « Faites mieux », lors de laquelle il parlera évidemment de Gaza.
Alexis de La Fontaine, devant les locaux de Sciences Po Paris. Un ouf de soulagement pour ceux qui ont prévu de prendre le train pour les ponts du mois de mai. La menace d'une grève est écartée. Les syndicats ont signé un accord avec la direction sur les fins de carrière des cheminots. En revanche, attention, si vous devez prendre l'avion ce jeudi, les négociations des contrôleurs aériens ont échoué. Ils annoncent une mobilisation record. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, la démission du chef du renseignement militaire israélien et le procès de Donald Trump qui vient de commencer.
Europe 1 soir.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, vous ne connaissez pas son nom, mais il occupe un très haut poste en Israël. Le général Aharon Aliva est le chef du renseignement militaire. Aujourd'hui, il annonce sa démission un peu plus de 6 mois après l'attaque du 7 octobre, Chloé Lagadou.
Oui, dans une lettre publiée par l'armée, le chef du renseignement militaire dit assumer sa responsabilité dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Une attaque surprise que le général Aliva et ses équipes n'ont pas su prévenir. Cette défaillance dans les renseignements est pointée du doigt par les partis d'opposition. Quelques jours seulement après l'attaque sanglante du Hamas, le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement israélien avait d'ailleurs reconnu des erreurs commises par les services de renseignement. Le 7 octobre, 1170 personnes sont mortes, essentiellement des civils. Le général Alivin explique dans sa lettre de démission qu'il porte avec lui ce jour noir. Jour après jour, nuit après nuit, il confie qu'il portera pour toujours cette terrible douleur. Après 38 ans de carrière dans l'armée, le haut gradé prendra donc sa retraite une fois son successeur nommé. Il s'agit de la première personnalité politique ou militaire à démissionner depuis l'échec du 7 octobre.
Et on en reparle largement à 19h45 avec le spécialiste en géopolitique Frédéric Ancel. En ce soir de Pâques juive, les familles d'otages demandent de laisser une chaise vide autour de la table lors du repas rituel du Seder, un geste symbolique pour ne pas oublier tous ceux qui sont retenus à Gaza depuis le 7 octobre. Moins d'une centaine seraient encore vivants. Donald Trump devant le tribunal de New York. C'est le coup d'envoi d'un procès historique pour l'ancien président américain. Il plaide non coupable sur les 34 chefs d'accusation de faux en écriture destinés à acheter discrètement le silence d'une actrice de film X avec laquelle il aurait eu une liaison, et cela avant la présidentielle de 2016. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce procès s'est ouvert sur des plaidoiries préliminaires de l'accusation et de la défense.
Le procureur a d'emblée donné le ton en déclarant « c'est une fraude électorale pure et simple ». Il a la charge de démontrer que les faux en écriture répertoriés dans les chefs d'accusation font partie de ce qu'il a appelé une conspiration que Donald Trump aurait personnellement dirigée pour étouffer non seulement les confidences de Stormy Daniels, mais aussi plusieurs autres révélations sur sa vie amoureuse. Selon la défense qui s'est exprimée ensuite, tout cela est une extrapolation à partir d'une simple manœuvre comptable. L'accusation n'a pas de preuve que Donald Trump ait commis une infraction pénale et il n'y a rien d'illégal dans le fait de vouloir influencer une élection. À son arrivée, Donald Trump avait retourné l'accusation d'interférence électorale en disant qu'il en était lui-même victime puisque ce procès l'empêche de se rendre en Pennsylvanie ou en Floride où pendant ce temps, Joe Biden fait campagne. Mais même un procès historique doit tenir compte du quotidien et le programme de cette première journée a été modifié pour permettre à l'un des jurés saisi d'une rage de dents d'aller chez le dentiste.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Direction maintenant la Russie où il se passe de drôles de choses dans l'usine Citroën, en théorie fermée en raison des sanctions internationales. Dans cette usine Stellantis, à 200 km de Moscou, on continue pourtant d'assembler des voitures, probablement avec l'aide d'un constructeur chinois, voilà qui nécessite quelques explications, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est un exemple concret de ce qu'il se passe quand on perd le contrôle d'une usine, me dit-on, du côté de Citroën, qui avait abandonné cette usine de Kalouga il y a 2 ans. Le site qui produisait 125 000 véhicules par an et employait 2700 salariés était petit à petit devenu désert. Mais voilà, depuis quelques semaines, la production semble avoir repris, sans aucun lien avec la marque du groupe Stellantis. Pourtant, les automobilistes russes peuvent précommander un C5 Aircross pour le récupérer à partir du mois prochain, parce que d'anciens salariés semblent avoir été réembauchés. On ne sait pas par qui précisément. Ils reçoivent des kits pour procéder à l'assemblage des véhicules. Citroën n'accuse personne directement, mais tous les regards se tournent vers le constructeur chinois Dongfeng, qui, dans le cadre d'un partenariat, produit en Chine des Peugeot 3008 et des C5 Aircross. Voilà comment la géopolitique s'invite dans le secteur automobile et comment une entente russo-chinoise semble permettre de vendre des Citroën sans aucune intervention de Citroën.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Cette histoire belge qui ressemble à un canular. Et pourtant, nous ne sommes pas un 1er avril à Bruges. Un homme de 40 ans était poursuivi pour conduite en état d'ivresse. Il a été relaxé pour cas de force majeure. La force majeure, c'est le syndrome très rare dont il souffre, l'auto-fermentation alcoolique, c'est-à-dire que son estomac fabrique naturellement de l'éthanol quand il mange du pain, des pommes de terre ou des haricots. Ce syndrome, je vous rassure, ne concernerait qu'une vingtaine de personnes dans le monde. Place au marché financier, toujours sobre, Claire Lemaître de Boursier.com, et une toute petite hausse pour démarrer la semaine à Paris.
Oui, un gain de 0,2%, 8040 points pour le CAC 40, une séance calme à Paris, mais la saison des résultats d'entreprise va s'accélérer et 21 sociétés du CAC 40 vont publier leurs performances financières cette semaine. En attendant, c'est Téléperformance qui termine en tête de l'indice, hausse de plus de 3%. Et de son côté, Edenred reprend 2,3% après une séance compliquée vendredi. 4 anciens dirigeants de sa branche italienne ont été mis en examen, notamment pour fraude. Ailleurs, en Europe, très belle séance pour Londres qui gagne 1,6%, plus 0,6% pour Francfort, plus 0,1% pour Amsterdam, plus 0,2% à Paris pour le CAC 40. On est à 8040 points.
Merci Claire Lemaître. À vous Marlène Duret pour la météo. Et c'est une journée qui va débuter sous un ciel contrasté.
Contrasté au niveau de la couleur du ciel.
Aussi, oui. Donc au niveau de la couleur du ciel, c'est vrai. Beaucoup de soleil dans de nombreuses régions demain matin. Un soleil devenant moins radieux en journée, c'est vrai. Je vais peut-être plutôt zoomer sur les régions qui se réveilleront sous un ciel gris. Alors, le long des côtes de la Manche, vers la Bretagne, au sud de la Garonne aussi, c'est une perturbation qui va donner des pluies plutôt faibles. De la neige sur les Pyrénées centrales des 500 mètres. Amélioration prévue dans l'après-midi, sauf du Cotentin à la Bretagne et à proximité des Pyrénées. On va rester sous un ciel gris avec quelques pluies. Autre zone de temps nuageux, plus instable avec des averses entre le Nivernais, l'est du Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence, sans oublier l'est de la Franche-Comté, et la neige qui va apparaître à basse altitude, 300 ou 400 mètres sur le massif central, 500 sur les Préalpes, 700 à 900 mètres dans les Alpes et 1000 mètres en Corse. Alors là encore, c'est pas mal de neige, jusqu'à 10 cm. Nous sommes au printemps. Et puis dans l'après-midi aussi, on notera un petit risque orageux entre la Côte d'Azur et la Corse, et le vent Mistral et Tramontane qui vont se renforcer.
Et je précise d'ailleurs que vous avez un gros manteau sur les épaules, parce que même ici, il fait très froid. Et comme la nuit dernière, il va falloir prévoir des gelées en pleine.
Et oui, on garde ses gants, parce qu'effectivement, entre moins 2 et 2 degrés attendus demain matin, entre la Normandie et la Picardie, et en continuant vers le centre-val de Loire, l'Auvergne Rhône-Alpes, surtout le quart nord-est aussi. Du côté de la Bretagne et de la façade atlantique, même près de la Méditerranée, on est plus sur du 3 à 8 degrés. Donc on reste sous les 10 degrés. Et demain après-midi, température en baisse au sud. Au nord, ça ne bouge pas beaucoup. Comptez 8 degrés à Rodez, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Grenoble et à Reims, 11 à Colmar, Auxerre, Limoges, 12 degrés à Paris ainsi qu'à Valence, 13 à Saint-Rémy-de-Provence ainsi qu'à Rennes, 14 à Montauban, Bordeaux et jusqu'à 16 à Montpellier.
Merci Marlène. Il est 19h18 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h dans un instant. Retour sur l'affaire Kenji Girac. Le mystère plane sur les conditions de sa blessure par balle ce matin dans les Landes.
Europe 1 soir.